News.
Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Italienne de naissance, Gilda Piersanti a choisi d'écrire en français. Romancière et scénariste, elle est l'auteur entre autres de la série littéraire « Les saisons meurtrières », traduite à l'étranger et adaptée à la télévision avec sa collaboration. Intitulé « Illusion tragique », son nouveau roman, aux éditions du Passage, a déjà reçu deux récompenses, le prix des lecteurs Quai du Polar 20 minutes et le prix Méditerranée. Un récit machiavélique, puisqu'il raconte alternativement deux histoires, celle d'un petit garçon à Rome, témoin d'un crime, et celle d'une romancière, Elisabetta, en train d'écrire exactement l'histoire de ce jeune Mario. Où est la fiction? Où est la réalité? Qu'est-ce que l'écriture? Autant de questions que se pose le lecteur, avec ce suspense, cette mise en abîme, qui commence d'ailleurs par une scène glaçante, où Mario espionne son voisin par un vasistas et voit ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Suite et explication de cette illusion tragique avec celle qui a tout imaginé, maintenant. Bonjour Gilda Piersanti.
Bonjour.
Quel a été le point de départ de ce roman ?
Les points de départ de ce roman, je vais vous surprendre, ça a été exactement cette petite fenêtre, les vasistas que décrit dès la première page, dès là où justement le petit garçon de 9 ans qui monte tous les soirs sous la terrasse de son immeuble romain,
Mario,
il regarde, donc il s'appelle Mario, il a 9 ans, et il regarde tous les soirs son voisin du dessus, du dernier étage donc, qui prend un bain avec une femme, une jeune femme, qu'il se plaît à peigner. Et ce qui intéresse ces petits garçons, c'est le fait que le voisin est connu pour n'avoir aucune relation, ni femme ni homme. Et donc, il se pose des questions et il commence à penser qu'il garde prisonnière une fille et il partage ses secrets avec son meilleur ami. Et ensemble, ils décident d'aller libérer la princesse. Et c'est là qu'effectivement, il est facile d'entrer, mais très difficile de sortir de cet appartement.
Donc voilà le départ de la première histoire, mais à partir de quel moment, Gilda Piersanti, décidez-vous que cette histoire va nous être aussi racontée par Elisabetta, qui est une romancière très célèbre et qui est auteure de romans policiers?
Ce qui m'intéressait depuis longtemps, c'est justement le passage entre le réel et l'imaginaire. Et le fait que dans certaines circonstances, quand on se plonge vraiment dans l'imaginaire à un point presque pathologique, on peut perdre les repères et ne plus voir ces fils absolument nécessaires qui partagent la vie réelle de la vie imaginaire. Et là, qui mieux qu'un écrivain qui toute sa vie passe un temps considérable, presque tout son temps, avec des personnages imaginaires, pourrait à un moment donné, si sa vie personnelle le pousse à ça, perdre les contacts avec la réalité. Et donc c'est ça qui m'a donné l'idée de mettre en scène un personnage qui effectivement était plongé à un tel point dans la vie qu'il crée à chaque fois, qu'il en oublie les repères de sa vie réelle. C'est-à-dire, il en oublie les clés de lecture. Il croit tout savoir, elle croit tout savoir, des certitudes sur les relations personnelles, sur la vie qu'elle mène, qu'elle n'a jamais remis en discussion, parce qu'il n'y avait pas de raison de le faire. Et puis, par contre, un jour, elle se rend compte que la réalité n'est pas du tout celle qu'elle croyait être. Mais ça, je crois qu'en fait, ce n'est pas le propre des écrivains. À un moment donné, à force d'explorer, on se rend compte que dans la vie de tout un chacun, souvent, des événements particulièrement critiques ou tragiques nous poussent à réécrire l'histoire passée, à la relire différemment. Et ça, c'est des vrais cauchemars, des pensées qu'on a vécues assez longtemps sur une fausse interprétation des faits.
Thank you. Alors justement, on va y arriver et parler peut-être un peu plus d'Elisabetta, cette romancière, puisque, comme vous venez de l'évoquer, ce thème de l'écriture est vraiment au centre du roman. Et même si vous brouillez constamment les cartes, Gilda Piersanti, en même temps, vous nous donnez quand même quelques clé sur la pratique de l'écriture. Et par exemple, vous dites, elle dit, on ne laisse pas un personnage décider de son sort. Est-ce que c'est vrai en ce qui vous concerne, ou plus particulièrement dans ce livre, vous avez été un peu rattrapée à la fois par Mario et par Elisabetta?
Voilà, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai et pas vrai. Évidemment, on pourrait dire d'emblée, ce n'est pas vrai, parce que les personnages, je le crée. Hein, si je devais parler comme Elisabetta, je le crée, donc il dépend de moi. Mais c'est oublier tout un tas de choses. Primo, que ces personnages ne viennent jamais de rien, parce qu'un écrivain invente toujours à partir de toute façon des lectures qu'il a faites, de la vie qu'il mène. Donc il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre, disons, d'une matière qui est avant. Il n'y a pas l'écrivain n'est pas quelqu'un qui entre dans une pièce et il trouve du matériel et dit bon, je prends ça, ça, ça et ça et je vais faire quelque chose avec ça, ça et ça. Ce n'est pas ça. Il fait toujours quelque chose avec soi-même, même quand il fait une recherche. On croit les maîtriser, on met ensemble quelque chose qui ressemble à un moment donné à un personnage, à un autre personnage, à une intrigue. Mais à ce moment-là, quand on commence à construire ces personnages, il commence à avoir une forme. Et à partir du moment où il commence à avoir une forme, il commence à réclamer des droits, dans le sens que ce qu'on continue à faire avec lui et ce qu'on continue à faire avec l'intrigue est dans un sens imposé par ce qu'on a déjà fait. Donc on fait plus ce qu'on veut. On est allé dans un sens. Je peux pas faire du petit Mario, par exemple, à la page 300. Il n'y a pas de page 300. À la page 150. Je peux pas en faire un gamin très, 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 très heureux, très sympathique, qui adore son petit voisin. Donc ça, son voisin, c'est quelque chose qui impose des conditions à un moment donné. Donc, les personnages réclament effectivement des droits, qui sont les droits qu'on lui a donnés. On lui donne des droits en les construisant. Mais quand on lui a donné ces droits-là, il les réclame. Donc, on ne peut plus faire ce qu'on veut, parce que sinon, les romans ne tiennent pas, ils s'écroulent. Ou bien, et c'est ce qui arrive souvent, hein, et dans plein de cas, il s'écroule, il n'est pas crédible, ou bien il est en contradiction, ou bien avec ce qu'il a été avant, ou bien il ne réagit pas comme il devrait. Comme il devrait, ça veut dire par rapport à tel que nous l'avons construit.
Mais est-ce que vous pourriez nous donner un exemple ici, Gilda Piersanti? Par exemple, est-ce que vous vouliez que l'histoire de Mario ou d'Elisabetta aille dans un sens différent et que finalement l'un des deux vous a arrêté en disant non?
Tout à fait, parce que la fin qu'on ne peut pas révéler, parce que c'est vraiment on ne peut pas faire ça au lecteur, je veux dire, sinon non. Ça n'a pas de sens.
Non.
La fin n'était pas du tout construite, je ne la connaissais pas. La fin, à un moment donné, vers la moitié du livre, je ne savais pas quelle serait ma fin, dans tous les sens, même avec IM, ma fin pour continuer. Et je me suis demandé qui des deux, comment ça allait se résoudre cette histoire. Et c'était un vrai questionnement. Et dans un sens, c'est comme si je demandais à mes personnages, en les relisant, en regardant, c'est ça que l'acte d'écrivain aussi est un acte d'étrangeté, parce qu'on regarde souvent ce qu'on a fait, comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait. Il y a une situation bizarre. On les lit et on dit, mais c'est moi qui ai créé tout ça. Donc, on se met dans la position de l'étranger, du lecteur. Et c'est là que, effectivement, on les voit plus objectivement. Et à ces moments-là, on comprend que ça doit aller dans un sens et pas dans un autre. Évidemment, quand on a fait un choix, à ces moments-là, on se pose plein de questions sur le choix qu'on n'a pas fait. Mais on a fait ces choix-là. Et donc, l'histoire sera celle-là et pas une autre.
Petite phrase, elle reconnaît que même en étant un écrivain du mal, c'est sa définition, elle n'a rien vu de ce que son mari lui cachait. Alors vous qui êtes aussi dans l'exploration de ses pulsions les plus inavouables,
Est-ce que vous avez la même naïveté ou au contraire, inventer des meurtriers vous a rendu lucide sur votre entourage et sur le potentiel de violence qui peut exister en chacun de nous?
Ben avec ces livres, j'ai créé des problèmes dans mon entourage.
Ah bon?
Parce qu'effectivement, il m'est arrivé dans une librairie, c'est une anecdote, c'est dans une librairie où j'ai présenté les livres. J'étais accompagnée par mon époux et la libraire, très gentiment, a présenté mon époux au public qui était assez nombreux. Et à ce moment-là, j'ai vu que le public s'est intéressé. Beaucoup de personnes avaient déjà lu les livres. C'était déjà un moment avancé de la sortie. Ils se sont intéressés beaucoup plus à mon mari qu'à moi. Ils voulaient savoir comment, effectivement, on se sent quand on est, on vit à côté d'un écrivain qui imagine les pires choses et surtout dans ses livres, nous savons pourquoi. Et c'est drôle, ces mélanges, effectivement, entre les réels et le non réel. Évidemment, moi, je ne suis pas aveugle. Je pense qu'au contraire, je suis sûre de rien. Voilà. C'est un peu un principe, mais ça, c'est ma personnalité. Je ne pense pas que dans les relations affectives, par exemple, on puisse jamais se dire « je suis sûre ». Rien n'est acquis, jamais. Même pas l'amour des enfants. Alors là,
alors l'amour de son propre mari. Donc c'est là où vous marquez une nette différence avec Elisabetta. Et je pense que vous avez pris un malin plaisir, d'ailleurs, à prendre une romancière pour justement créer le trouble et faire croire à certains de vos lecteurs qu'elle pouvait être votre double romanesque, alors que pas du tout. Vous avez choisi quelqu'un qui ne vous ressemble finalement pas dans ses réactions. Alors c'est un peu de la psychanalyse de comptoir, mais néanmoins, je vais vous poser cette question, j'ai de la perçanti. Vous avez l'habitude, métaphoriquement donc, de passer à l'acte dans vos romans, de tuer des gens, mais là, mettre en scène une romancière qui passe à l'acte et qui tue véritablement quelqu'un, est-ce que c'était jouissif de votre part?
Ah, c'est toujours jouissif de passer à l'acte quand on ne peut pas passer à l'acte. Parce qu'au contraire, moi, je pense qu'il faut toujours garder dans la vie normale. En fait, je ne pense pas du tout que la vie normale doive être une espèce d'œuvre d'art. Au contraire, parce qu'il peut y avoir ça aussi. Je pense que ces clivages entre la vie normale, entre guillemets, la vie qu'on mène, et la vie imaginaire est très utile d'abord pour la loi. Parce qu'heureusement, on ne tue pas ni son voisin, ni son mari, ni ses enfants, vu que je pense à m'aider. Mais c'est très jouissif, justement, dans les fantasmes. Tout ce qu'on peut faire dans les fantasmes ne tombe pas sous les coups de la loi. Et heureusement qu'on a des fantasmes. Alors, justement, les vrais problèmes, c'est de rester dans les fantasmes, dans ces cas-là, de ne pas croire à la lettre que c'est qu'on écrit, qu'on lit, est la réalité, et les mettre en pratique dans la réalité. Nous sommes tous emportés par des passions noires. Je pense qu'il n'y a pas personne sur Terre qui n'a pas eu envie un jour de faire disparaître quelqu'un qui les gêne. Tout le monde déteste quelqu'un tôt ou tard, une fois dans sa vie. Je n'y crois pas. Sinon, on est un saint. Et même les saints trouvent de la jouissance, probablement de la sainteté. Donc, il y a toujours un retour quelque part. Mais tout ça, tant que ce n'est pas un passage à l'acte, c'est parfait.
Donc, écrire des romans policiers, pour vous, désamorce les pulsions
meurtrières. Des vrais! Exactement, c'est pour ça que je ne crois pas en fait que la littérature, quand elle met en scène des choses terribles, pousse à faire des choses terribles. Mais non, pas du tout. Au contraire, ça a un effet cathartique. D'ailleurs, c'est ça, les tragédies grecques avaient cette fonction. Il y avait des meurtres à la pelle, mais c'était justement une fonction cathartique. On les fait là où on peut les faire. Et en même temps, ça nous dit quelque chose sur nos passions noires. Parce que ça existe, ça, les passions noires. Il n'y a pas que les monstres qui ont des passions noires. Nous sommes tous des monstres, quelque part.
C'est un roman qui se déroule essentiellement à Rome, comme la plupart de vos livres, et qui ici aussi est écrit en français, votre langue d'adoption, puisque vous êtes italienne, Gilda Piersanti. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ce choix du français pour des intrigues de surcroît qui sont très ancrées en Italie?
Oui. Est-ce que c'est un choix? Je me suis posé la question. Je pense que c'est les genres de choix alors qui ressemblent un peu au coup de foudre. Voilà. Est-ce que c'est un choix? C'est une rencontre. Et d'ailleurs, je commençais à lire en français très jeune. J'ai beaucoup fréquenté la littérature française, je veux dire dès l'adolescence, et j'ai longtemps traduit la littérature française en italien. Donc cette pratique de la traduction m'avait mis en confiance, enfin vraiment j'ai familiarité avec la langue française, que j'aimais évidemment beaucoup. Et donc à un moment donné, je suis venue vivre en France et c'est venu tout naturellement. C'est-à-dire, j'ai commencé à écrire en français et ça m'a paru quelque chose de sans que j'ai l'impression de trahir ma langue maternelle qui est toujours là. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire, j'avais l'impression que quand j'ai commencé à écrire en français, il y avait aussi les Français, peut-être grâce à la pratique de la traduction, entraient en résonance avec la langue italienne. Et donc, dans certains... Voilà, je me suis dit, ça provoque des effets de style, paradoxalement. Parce que les styles, qu'est-ce que les styles? C'est pas les beaux styles. Les styles, c'est une manière... C'est la langue écrite, c'est une manière de pratiquer la langue qui n'est pas la manière normale de la vie quotidienne. Parce que sinon, il suffirait de mettre un micro, de transcrire, et tout le monde ferait des romans. C'est ça aussi les quiproquos. On pense que tout le monde peut écrire. Ben non, tout le monde ne peut pas écrire s'il n'est pas écrivain. C'est une activité comme une autre.
C'est un métier.
C'est un métier, appelons-le comme ça. Un métier particulier, mais c'est un métier, effectivement. Et donc, là, d'ailleurs, dans les romans, les personnages ne parlent jamais que comme dans la vie réelle. Et même dans les cas des grands écrivains qu'on ne peut pas ne pas citer Céline, mais ce n'est pas du tout la langue parlée. C'est une langue parlée qui est devenue style, qui est devenue littérature. Donc, c'est ça. La langue italienne, effectivement, avait des résonances. J'avais en tête des fois des tournures, des phrases qui étaient... Effectivement, c'était l'italien. Et alors, je tordais un peu la langue française parce que je voulais rapporter quelque chose de ça. Et le plus extraordinaire, c'est qu'après, j'avais mis dans mes contrats avec mon éditeur, j'ai toujours mis une clause, c'est que dans la traduction italienne, personne ne peut traduire sauf moi, parce que c'était quand même ma langue. Donc, je me suis retrouvée un jour à devoir traduire en italien ce que j'avais écrit en français.
Écrit et pensé.
Et pensé en français, absolument. Absolument, parce que quand on écrit, je n'écris pas en italien et puis je me traduis en français quand j'écris. Quand j'écris, j'écris en français. Et le paradoxe, c'est que quand je me traduis en italien, parfois je vais chercher dans le dictionnaire. Parce que oui, parce que le travail du traducteur est un travail absolument magnifique. C'est un travail d'écrivain, de fait. C'est un travail d'écrivain très méconnu qui, justement, vit... Parce que qui, plus que les traducteurs, travaille dans la chair de la langue? Qui se demande à chaque fois si les mots sont les mots justes? Si la phrase est celle qu'il fallait, celle-là, avec cette succession-là? Et les traducteurs, plus encore que l'écrivain, je crois, vit dans un tourment parce qu'à chaque fois qu'il fait un choix... Il lui reste les doutes qu'il y avait un autre choix possible, peut-être meilleur.
Voilà un autre niveau de schizophrénie. Donc,
ah oui, après, tout à fait. Oui, les doubles.
La réalité et la fiction, nous ouais. Voilà entre deux langues et nous voilà entre une vie où on ne commet pas de meurtre et une vie où on peut commettre des meurtres. Voilà, c'est un peu votre univers, Gilda Piersanti.
Je crois.
Merci beaucoup. Et c'est aussi à l'image de ce nouveau titre, Illusion tragique. Ça veut dire qu'en effet, il y a beaucoup de faux-semblants dans ce roman. Et encore une fois, on ne peut rien dire de l'épilogue, mais il faut lire jusqu'à la dernière ligne pour comprendre ce que l'on vient de lire ou pas. Et c'est un roman qui est apparu, comme les précédents, aux éditions Le Passage. Merci.
Merci beaucoup.
Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.